Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et pour débattre de l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub. Bonjour Judith.
Bonjour Valérie.
Grand reporter au Figaro Magazine. François Coq, bonjour. Vous êtes là ? Enseignant, essayiste, auteur de L'impératif démocratique. Éric Vérague ne devrait pas tarder à arriver. Il est là, il n'est pas là. Entrepreneur et fondateur
Je suis en Zoom.
Ah, vous êtes en Zoom, d'accord. Et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Et Mathieu Alterman, qui est en studio, journaliste. Et vous avez publié Femme fatale aux éditions
Pied des Brunes. Nouveau
livre fin avril. Faut-il expérimenter des quartiers sans contrôle d'identité ? Bien que la défenseure des droits soit revenue un petit peu sur ses propos, elle persiste à demander des contrôles sur les contrôles. Donc on va en reparler. Et on peut s'interroger sur cette défenseure, défenseuse, je ne sais pas comment on dit. Défenseur des droits qui ce matin était chez nos confrères d'Europe 1 et qui n'a pas répondu à un certain nombre de questions, en particulier celle du burkini, mais c'était peut-être pas le sujet. Ça tombe assez mal cette déclaration, puisqu'on va parler également de cette agression à Poissy. La police est-elle en danger? La République est-elle attaquée? Et puis la loi séparatisme, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Petit tour de table sur vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Judith.
Alors attention, je vais parler foot.
Oui, mais c'est pour la bonne cause.
Ça va être la première fois dans ma vie. Enfin, foot si on veut, parce qu'en fait, je vais vous parler de la cérémonie de remise des décorations qui a eu lieu jeudi après le Mondial des clubs organisé au Qatar et où chacun a pu voir sur des vidéos que les arbitres hommes avaient droit à un chèque, c'est-à-dire un coup de poing dans le poing.
Un chèque du chèque
du Qatar, qui est un des dirigeants du Qatar, mais pas les arbitres femmes. Et les arbitres femmes, elles étaient au courant parce que avant de passer devant le chèque en regardant qui lui regardait soigneusement ailleurs, elles auront eu droit à un petit mot à l'oreille de Gianni Infantino, qui est le patron du foot mondial, qui les prévenait qu'il ne fallait pas embêter le chèque quand on mettait une femme en short non voilée. Alors évidemment, le Qatar a démenti en disant pas du tout, ce sont les joueurs et les arbitres qui demandaient des mesures sanitaires. Curieusement, il n'y a que les femmes qui refusaient le chèque. Donc, un démenti extrêmement
alambiqué
et extrêmement inquiétant parce que le Qatar organise, vous le savez, la Coupe du Monde en 2022. Ouais. Donc, ça part très, très bien. Et puisque j'ai fait une première en parlant foot, je vais faire une deuxième première en disant du bien de Clémentine Autain, de la France Insoumise, qui était la seule féministe à s'indigner du traitement réservé aux arbitres femmes par ce chèque du Qatar.
Il y en a eu d'autres. Il y a eu Caroline Fourest.
Caroline Fourest, elle n'est pas néo-féministe, elle est féministe.
Ah oui, d'accord. Vous parlez des néo-féministes, effectivement.
Je parle des néo-féministes.
Oui, mais c'est vrai que, la FIFA, quand même, a une responsabilité dans ce qui s'est passé, et il n'y a pas vraiment de réaction très claire.
Mais... Parce que tout simplement, dans ce pays-là, on ne traite pas très bien les femmes, quel que soit leur métier. Je pense que la même... À la limite, je vais vous dire, je ne suis même pas spécialement choqué, puisque quelque part, c'est normalité là-bas. Moi, ce qui me choque plus, c'est quand il se passe la même chose en France. C'est quand des gens ne veulent pas... maintenant, c'est là-bas, c'est épouvantable, on le sait. Je ne suis pas du tout surpris. Une seconde.
Ne comptez pas sur la FIFA pour aller faire quelques remontrances, que ce soit au Qatar, quand on connaît les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde. Enfin, franchement, tout ça est totalement grotesque d'aller jouer une Coupe du Monde à une période qui n'est pas celle à laquelle on peut jouer une Coupe du Monde, dans ce pays qui n'est pas un pays de football. Et donc, tout le monde a bien compris que les intérêts qu'il y avait en jeu lors de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar font qu'aujourd'hui, la FIFA s'est totalement invalidée et ne se permet pas de dire quoi que ce soit quand des faits aussi grotesques se produisent.
Oui, alors en même temps, ils ont accepté les femmes, ils ont accepté des femmes arbitres. Vous allez me dire que c'était difficile peut-être de...
C'est le en même temps, en même temps au Qatar.
Alors, certains disent que c'était pour éviter qu'elles se prennent un vent en allant serrer la main, mais enfin, c'est vrai que certaines personnes se sont interrogées sur le fait qu'elles auraient pu y aller pour provoquer quelque chose, sauf que je pense que c'est très, très compliqué.
Oui, quand c'est le patron de la FIFA qui vous dit de ne pas le faire, c'est très compliqué.
Oui, Éric Vérague.
Mais c'est une espèce d'antienne maintenant qu'on répète en boucle comme à la messe. On sait très bien que l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar nous contraignent à être indulgents avec des poisons qui nous nuisent jour après jour, hein, puisque le Qatar finance des mouvements salafistes en Europe qui diffusent leur idéologie en échange de l'achat en beauté de nos dirigeants ou de nos institutions. Et là-dessus, voilà, je pense qu'on se posera d'ailleurs la question tôt ou tard au prochain débat sur les présidentielles de l'influence du Qatar, influence discrète, sur un certain nombre de candidats ou de candidateux qui vont avoir la tentation d'adoucir leur discours sur la question de l'islam politique, parce que finalement, le Qatar sait se montrer généreux quand il le faut pour faire passer ses idées. Ah, aujourd'hui, on en paye le prix. Ça me fait rire d'ailleurs. Je rebondis sur ce que disait Judith, puisque si Clémentine Autain a poussé une espèce de cri du cœur au moment de bravoure, je vois sur la bouche le sourire de Judith qui en dit long. Est-ce qu'elle pense la même chose que moi? En même temps, Clémentine Autain, en tant que députée de Saint-Denis, elle est quand même la première à être complice de cette idéologie et à faire ses choux gras. De ces relations totalement scandaleuses avec des gens qui détestent non seulement les droits de l'homme, mais les droits des femmes.
Oui, c'est-à-dire que Clémentine Autain, elle critique quand c'est là-bas, mais quand c'est en France, elle trouve ça très bien, elle manifeste à côté d'eux.
Voilà. Juste,
Exactement.
le Qatar donc, a précisé, il y a eu un petit malentendu pour limiter le risque de propagation du virus. Des protocoles stricts étaient en place et il était forcément conseillé à toutes les personnes impliquées dans le tournoi d'éviter tout contact physique. Trois des officiels du match n'ont pas voulu faire le coup de poing, le check habituel avec son excellence Altani, ce qui était bien sûr leur droit. Donc, il y a effectivement un moment où l'image est coupée et où, semble-t-il, un arbitre non plus ne fait pas le check. Mais enfin, tout ça est assez déplorable tout de même. Et c'est vrai que c'est pas forcément très très bien. Que nous disent nos auditeurs? Vu les mallettes que la FIFA a pris pour autoriser cette organisation, ils ne vont sûrement pas dire quoi que ce soit contre le Qatar. Mathieu Alterman, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule qui concerne une néo-féministe qui s'appelle Anna Toumazov, une féministe radicale qui dénonce au départ, à juste titre, des débordements qu'il y a eu dans des instituts d'études politiques, hein, des cas de viol, de harcèlement terribles qui se sont produits à Toulouse, Lyon, Grenoble, Rennes, Strasbourg, Aix-Bordeaux. Et cette jeune femme rebondit en disant « Regardez, c'est très bien, le directeur de Sciences Po Paris a démissionné suite à ça. » Et elle a fait un hashtag qui s'appelle « Sciences Sport ». Qui est partagé partout. Et puis, il y a des articles partout où on parle de ces problèmes avec la photo de Sciences Po Paris. Le problème, c'est que ces unités ne dépendent absolument pas de Sciences Po Paris, dont voici les pôles, qui sont Reims, Le Havre, Nancy, Poitiers, Dijon, Menton, qui ne sont pas du tout les mêmes. En fait, quand vous faites des études de sciences politiques, ça devient un nom commun à un moment, ce n'est plus un nom propre. Donc, les villes où il s'est passé ces choses inadmissibles n'ont strictement aucun rapport avec Sciences Po Paris. C'est juste homonymie. Ouais. Je trouve ça assez incroyable que la presse publie ces articles en les dénonçant à juste titre, mais en mettant la photo de Sciences Po Paris, en rappelant la démission de son directeur Millon, alors que ça n'a rien à voir.
Oui, bon, enfin, il y a quand même...
Non, mais s'il se passe un truc dans une école de commerce, c'est pas de la faute de toutes les autres écoles de commerce de France, c'est la même
Et
chose.
Et à Paris, il n'y a pas eu.
Non. Ben non, et ni dans les pôles qui appartiennent à Paris, qui sont ceux-là et qui ne sont pas du tout les mêmes. Les villes, encore une fois, où ça s'est passé, Toulouse, Lyon, Grenoble, Rennes, Strasbourg, Aix-Bordeaux, ne font pas du tout partie du pôle Sciences Po Paris, du tout.
Vous avez suivi ça, les uns et les autres, François Coq?
Oui, enfin, en l'occurrence, la question n'est pas celle de Sciences Po, telle qu'elle est posée. La question est du phénomène qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de grandes écoles, mais dans l'ensemble de la société. C'est ça qu'on est en train de, sinon de découvrir, du moins on est en train d'en prendre conscience et de l'ampleur du phénomène. C'est ça qu'il faut retenir, je crois, et pas savoir si c'est Sciences Po, Sciences
Ah bah
Po
si,
Paris.
Si, y a, ça, si, non, 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 il y a un hashtag viral qui s'appelle Sciences Po.
Non, mais tout,
bah oui, mais
non,
que
mais
ça,
tout
soit,
ça,
oui,
c'est
mais
des querelles
Sciences
de
Po.
clochers, tout ça, parce que Sciences Po a tellement pignon sur rue et prétend infuser au sein de l'ensemble de la société qu'il ne faudrait rien pouvoir dire sur Sciences Po et les autres.
Bah, bon, oui, mais ce n'est pas eux. Attendez, monsieur, global, ce n'est pas eux.
Oui, mais il y a un
c'est
truc qui s'appelle Sciences Po.
Non,
c'est d'accord, c'est, mais vous avez raison, il ne s'est rien passé à Sciences Po.
Quand vous faites des études de sciences politiques...
Allez faire un saut pour voir...
En tout cas, il n'y a rien eu à Sciences Po Paris, non, monsieur, je suis désolé.
D'accord, tout à fait.
C'est factuel. Quand vous faites des études de sciences politiques dans certaines villes de France, vous intégrez des unités qu'on appelle des
sciences
unités
politiques.
De sciences politiques, mais qui n'ont rien à voir avec l'école Sciences Po. C'est juste le même nom, mais c'est pas du tout la même chose.
Vous regardez le doigt, monsieur.
Bon, Eric, Vérac, Judith.
Effectivement, le problème principal, c'est pas l'erreur. Même je suis à moitié désolée seulement, pardon, pour Sciences Po Paris, qui s'était illustré, je le rappelle, en organisant un hijab day. Eux aussi, ils ont une défense de la dignité de la femme à géométrie variable.
Mais
le problème, c'est effectivement toutes ces agressions, voire ces viols qui sont passés sous silence. Le hashtag a eu ceci de libérateur que des jeunes femmes, je crois que ce ne sont que des femmes, je peux me tromper, il y a peut-être eu des hommes aussi, ont porté plainte pour agression et pour viol, ce que je trouve très positif. Ce que je ne trouve pas positif, c'est qu'on mélange tout. Dans les témoignages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, vous avez absolument de tout, jusqu'à des dénonciations globales et générales de culture du viol, qui vous explique qu'une remarque sexiste, qui fait une remarque sexiste est un violeur en puissance. Là, je ne suis plus d'accord.
Oui. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On aura votre coup de gueule, Judith, et celui d'Éric Vérac. À tout de suite.
Vous l'avez déjà eu.
Oui, celui de Judith, on l'a eu, pardon. C'est effectivement Éric et François. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous, on est ensemble pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, François Coq, enseignant, essayiste, Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges et Mathieu Alterman, journaliste. On va parler donc de cette expérimentation des contrôles, des quartiers sans contrôle d'identité ou au moins de contrôle sur les contrôles, ce que propose la défenseure des droits. La police est-elle en danger et surtout la République est-elle attaquée, comme le dit Gérald Darmanin, et la loi séparatisme, à quoi sert-elle? On finit notre tour de table avec le coup de cœur de François Coq. François?
Ouais, alors si c'est un coup de cœur, c'est pour un anniversaire, parce que demain, c'est l'anniversaire de ma fille, mais oui. Ce ne sera pas un coup de cœur, ça sera un coup de gueule, parce que c'est un autre anniversaire dont j'ai envie de vous parler. Ouais. C'est celui de l'acte unique européen. Qui a eu lieu le 17 février 1986, autrement dit il y a très exactement 35 ans. Et l'acte unique européen, c'est quand même un moment assez fondateur dans le mauvais sens, puisque c'est le basculement du marché commun au marché unique, ou pour être plus exact encore, à l'unique marché. C'est de là que tout est parti. C'est là-dedans que se sont encastrés derrière le traité de Maastricht et tous les traités d'Amsterdam, de Nice, le traité de Lisbonne et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne. Bref, toutes les politiques que nous subissons aujourd'hui qui empêchent de mettre en place des politiques de défense et de promotion du service public ou des politiques de redistribution des richesses. Et je signale cet anniversaire aujourd'hui parce que on voit quand même encore aujourd'hui comment l'Union européenne pousse ces injonctions qui sont reprises en cœur par les émissaires coloniaux au sein de notre pays. Vous avez entendu les mots de Madame Lagarde il y a quelques jours lorsqu'elle a dit « une dette, ça se rembourse ». Et vous avez vu comment cette expression… Ces éléments de langage ont fait florès et qui sont repris ensuite au mot près par la plupart des commentateurs et des politiques. J'entendais encore Bruno Le Maire qui le disait. Vous avez entendu la commission européenne de Madame von der Leyen qui disait que, bien sûr, il faudrait une réforme des retraites, et Monsieur Le Maire qui s'est empressé ce samedi de dire la même chose. Bref, tout ça a à un moment donné pris naissance en grande partie au moment de l'acte unique, il y a 35 ans. Et ce combat est encore à mener pour que la souveraineté populaire et le droit des peuples puissent être enfin respectés et que toutes les décisions ne tombent pas directement de Bruxelles. Il y a un axe trop fort actuellement entre Bercy et Bruxelles, et j'y rajouterai même Berlin pour ma part.
Oui, quelqu'un.
Oui, j'ai envie de dire que l'axe unique a permis de contenir l'inflation et a fait augmenter le niveau de vie des Français aussi, qu'on le veuille ou non. Il y a évidemment des choses que vous dénoncez, vous avez tout à fait raison, mais il y a également aussi des choses positives.
Oui, Eric Vérac, Judith.
Je suis d'accord avec Mathieu. Et j'ajouterais que bien souvent, on impute à l'Europe des défaillances, des manques, des lacunes qui sont en fait dues aux États-nations qui, tout en se proclamant européens pour la majorité d'entre eux, font en sorte de privilégier. De saper le fonctionnement de l'Europe. Mais évidemment qu'elle est plus qu'imparfaite en ce moment. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
Oui. Et Eric Perrag ?
Oui, enfin, je pense que je donne un conseil à Miscal, à François, qui est qu'il devrait se renseigner sur ce qu'est l'Union européenne, puisque quand même, lorsque la France est entrée dans le marché commun, en gros, les dépenses publiques devaient représenter 45% du PIB, et au bout de 30 ans d'horrible néolibéralisme imposé par Bruxelles, elles représentent aujourd'hui 56% du PIB. Donc, factuellement, c'est évidemment un énorme mensonge de dire que Bruxelles s'oppose à la redistribution des richesses, puisqu'on en a fait beaucoup plus depuis qu'on est dans le marché unique qu'avant. Et deuxièmement, je trouve qu'il faut... qu'il est très malhonnête de faire croire que sortir de l'Union européenne nous permettra de dépenser sans compter. Mmh. Il faut dire aux Français que du jour où nous sortirons de l'Union européenne et de la couverture par l'épargnant allemand de tous nos emprunts extraordinaires, nous devrons supprimer 1 million d'emplois de fonctionnaires pour soutenir la compétition internationale. Et je trouve que c'est très malhonnête de faire croire aux gens.
C'est vous, Eric, qui êtes malhonnête de mettre ce débat sur ce terrain-là. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne?
Non, mais il faut dire que grâce à l'Union européenne...
Je dis que l'Union européenne est inefficace, que ce sont des
charges qui ont été capables
de gérer la question des vaccins, qui ont été incapables de gérer la question des
masques. Grâce à l'Union européenne, on peut créer des tas
d'enseignes. Pas tous en même temps, Eric.
L'Union européenne, on est invisibilisé. On a abandonné totalement notre souveraineté, on s'est incapacité. C'est ça que je dis, Eric. C'est vous qui changez
Donc sous-jacent qu'il faudra en sortir.
Oui. Non, pas sous-jacent qu'il faudra en sortir. L'Union européenne, telle qu'elle est là, il faut en sortir et reprendre les marges de manœuvre nécessaires. Enfin, quand même, qu'est-ce que c'est que ce sketch des vaccins?
Oui,
on est en plein dedans.
Oui.
Donc, à un moment donné, il faut reprendre les règles, tout simplement.
Oui, mais être libre, François, ça a un prix. Aujourd'hui, on échange notre servitude contre l'argent des Allemands. Le jour où nous devrons être libres, nous devrons supprimer 1 million d'emplois de fonctionnaires.
Oui. Alors, on va passer à votre coup de cœur, Eric Vérac,
oui,
qui est en lien avec ce dont on vient de débattre.
Puisque je me souviens, il y a encore 10 ans, quand j'étais dans l'actif, si j'ose dire, j'entendais Paris Europlace dire « Nous allons devenir la première place financière d'Europe, nous allons battre la City ». Et on découvre, et je félicite les Hollandais pour leur efficacité, on découvre que quelques semaines après le Brexit, la première place financière en Europe, c'est Amsterdam et pas Paris. Alors, il faut préciser quand même que, bien entendu, la finance, c'est mal et c'est méchant, mais la City rapportait 100 milliards annuels d'impôts aux Anglais, aux Britanniques. La City, les taxes sur les transactions financières et sur l'activité des courtiers à Londres rapportaient 100 milliards aux citoyens britanniques. Cet argent, il va aller aux Hollandais. Et nous, avec nos grands principes de « abat l'évasion fiscale »,« abat le méchant secteur privé »,« vive le service public », nous nous sommes privés d'une manne de 100 milliards d'impôts supplémentaires en attirant à nous les emplois financiers de Londres. Ils sont partis à Amsterdam. Et je le redis, tout ce discours sur le service public, c'est un discours de la paupérisation et de la tiers-mondisation de ce pays. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est le travail des entreprises, ce n'est pas la paperasse des bureaucrates qu'on recrute à tour de bras en disant « il n'y a jamais assez de services publics
voilà, ».
Donc bravo les Hollandais.
Bon, c'est dit, voilà. On va peut-être marquer une pause avant de commencer nos débats. Peut-être aussi, je vais vous faire écouter quand même Roselyne Bachelot. C'était dans le zapping de ce matin et franchement, c'est irrésistible. On a eu un énorme coup, vraiment fou rire ce matin. Je voulais vous le faire partager. Donc à propos de la réouverture des festivals, elle travaille, Roselyne Bachelot, écoutez.
J'ai une réunion avec les festivals
classique des festivals assis, et c'est donc mercredi et jeudi avec les festivals debout. Moi, je suis très optimiste pour les festivals assis. Où finalement, ça va, je suis optimiste pour les spectacles assis. Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je mène des expérimentations.
En fait, elle n'est pas ministre de la Culture, elle est maître chien, en fait.
C'est ça. Les festivals assis et les festivals debout. Enfin, les spectacles assis.
Non, mais je veux dire, il ne faut pas se moquer de Roselyne Bachelot. Ça fait 40 ans qu'elle voulait avoir ce poste. Elle l'a au pire moment de toute l'histoire.
C'est
quand même, elle n'a pas de chance, quoi.
Ouais. Ça vous fait sourire aussi, Judith?
Oui, ça me fait sourire, mais enfin, tout ce qui va ou qui peut aller dans le sens d'une réouverture du monde de la culture, je prends ça pour une bonne nouvelle. Oui. Je rappelle qu'il y a des tas de pays où c'est déjà ouvert, que s'il y a un endroit où c'est facile de faire respecter la distance entre les gens et le port du masque, c'est quand même les théâtres, les cinémas. Et dans les deux bouts, il faudrait quand même faire une catégorie à part pour les musées. Parce que contrairement à ce que disait Olivier Véran, je crois, c'est rare d'aller en grosse bande au musée. En général, va à deux ou à trois pour reprendre le temps.
D'autant qu'il n'y a plus de groupes organisés, il n'y a plus de touristes à Paris. Donc,
n'oublions pas les musées.
C'est une segmentation uniquement basée sur l'âge. On sait que ce sont les plus jeunes qui vont voir des spectacles debout, qui sont moins disciplinés pour se déplacer, et que les gens plus âgés vont sur des trucs assis et aux obéissent plus. En fait, c'est ça, ils n'osent pas le dire depuis des mois, mais c'est ça la chose.
Absolument. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Les contrôles, les zones sans contrôle, les contrôles des contrôleurs et des contrôlés. Bref, on y revient dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Alors hier, la défenseure des droits a fait parler d'elle, Claire Hédon, qui suggérait qu'il y ait des zones dans lesquelles on arrêterait de contrôler l'identité dans certains quartiers pour certains jeunes. Cela devient insupportable, disait-elle. Elle estimait que dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien. Ce matin, elle était chez nos confrères d'Europe 1. Elle a réagi à cette polémique en rétropédalant, en disant qu'elle n'avait jamais voulu la fin des contrôles, mais qu'elle demandait une traçabilité. Elle disait, mais il n'y a pas de service. Il n'y a aucun service public qui n'est pas évalué. Il faudrait évaluer tout cela. Les syndicats de police, évidemment, ont exprimé leur vive opposition. Et Gérald Darmanin estime qu'il ne doit pas y avoir en France des endroits où la police n'a pas le droit de contrôler. En gros, elle demandait des zones de non-droit. Donc, on peut s'interroger et sur la fonction de défenseur de droit, sur ses positions, sur cette nomination d'une manière générale. Enfin, cette nomination, pas de cette personne, mais pourquoi est-elle nommée, dans quel but et quels sont ses pouvoirs réels? Judith, on va peut-être commencer avec vous sur cette déclaration pour le moins étrange quand même.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur la nomination de cette personne en particulier?
Vous avez raison.
Parce qu'elle a quand même des choix, elle a eu avant des choix qui en font une militante, c'est très respectable une militante, mais on ne met pas quelqu'un qui est par exemple pro-immigration, donc anti-contrôle de l'immigration, comme défenseur des droits, par exemple. Sur son argument, 95% des contrôles sont inutiles. Moi, je propose qu'on applique ça au contrôle d'alcoolémie. Parce que je pense que quand on fait des contrôles d'alcoolémie, il y en a une très très large majorité qui nous montre que les conducteurs ne sont pas bourrés.
Ça s'appelle un contrôle.
Mais le truc, c'est justement d'identifier ceux qui ont trop bu pour conduire correctement. Voilà, c'est le principe du contrôle. Donc, son argument ne tient pas une seconde. La façon dont elle a rétropédalé, vous le disiez, était assez lamentable. Elle ne s'est pas du tout expliquée sur le burkini. Qu'est-ce que c'est l'affaire du burkini? Le CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous par Gérald Darmanin, qu'il considère comme une organisation qui encourageait l'islamisme, mène une guerre contre les maires qui interdisent les burkinis dans les piscines ou dans les plages. Eh bien, le CCIF dissous a saisi Claire Hédon, dissous en France, on reconstitue à l'étranger, a saisi Claire Hédon, défenseure des droits, qui a dit oui, on va regarder ça. Donc elle donne tous les signes de l'islamo-gauchisme militant.
Alors, oui. Moi, je trouve surtout que Mathieu demander Starman. La suppression de contrôle dans ces quartiers, c'est faire preuve d'un incroyable mépris envers les gens qui vivent dans ces quartiers et qui, pour l'immense majorité, ont juste envie de vivre en paix sans être en permanence harcelés par des bandes minoritaires. C'est ça. Moi, je suis d'accord qu'effectivement, il y a beaucoup de contrôles qui mènent à rien. Mais à mon sens, il faut supprimer les contrôles ailleurs ces zones-là et les laisser uniquement dans ces zones. C'est exactement le contraire. Alors, Judith, vous parliez
déjà,
de l'alcoolémie.
C'est déjà un peu le cas. Non,
mais vous parlez de l'alcoolémie, c'est quand vous contrôlez...
Moins de chances de vous faire contrôler dans le 16e qu'en Seine-Saint-Denis, je pense.
Mais le problème de l'alcoolémie, c'est qu'effectivement, on peut tomber sur des alcooliques qui ont bu, alors que les contrôles d'identité, on peut quand même rarement tomber sur un terroriste international par le gré du hasard. Il y a quand même effectivement là-dessus un problème.
On peut tomber sur des gens qui n'ont rien à faire à l'endroit où ils ont été contrôlés.
Bah oui, mais on a le droit de circuler partout.
On peut tomber. Non, il y a des mesures d'éloignement. C'est d'ailleurs l'exemple que citaient notamment les syndicats de police. On peut tomber sur des gens qui sont en cavale, tout simplement.
Oui, mais enfin, ça arrive quasiment jamais dans les faits. Bon.
Ouais, et donc ce matin, elle a dit bien sûr qu'il faut des contrôles quand il y a une atteinte à l'ordre public. Alors ça s'appelle plus un contrôle là, ça s'appelle une interpellation, une arrestation. Quand il y a un comportement suspect, quand il y a une réquisition de la part du procureur, ça s'appelle pas non plus un contrôle. Mais cela ne veut pas dire contrôler l'identité en permanence. Bah ça s'appelle un contrôle d'identité justement. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'elle veut dire, François Coq.
Ouais, il y a d'abord deux aspects dans la déclaration de la défenseur des droits. Le premier, que moi j'ai du mal à comprendre, c'est effectivement de stigmatiser certains quartiers et de commencer à dire « dans certains quartiers, il n'y aurait pas de contrôle ». Donc on va créer de fait des zones de non-droit. Moi, je ne suis pas pour que la République ne s'applique pas partout, la République est partout chez elle, ouais. Et on ne va pas commencer à différencier les territoires. La deuxième question qui peut être posée, c'est « est-ce que les contrôles d'identité sont utiles ?» Et là, de fait, la mesure que préconise la défenseur des droits, dans ce cas-là, elle ne devrait pas s'appliquer à certains quartiers, mais elle devrait s'appliquer sur de vastes zones expérimentales avec des territoires variés et divers. Moi, pour ma part, je suis pas convaincu que l'idée de se passer de la capacité de pouvoir faire des contrôles d'identité soit une grande idée. Ça, c'est les deux points qu'elle pose. Après, il y a une question sous-jacente quand même là-dedans. J'imagine qu'elle avait en tête de poser la question
des contrôles aux faciès.
Dont on voit bien que c'est une question qui n'est pas traitée. Le chef de l'État avait dit qu'il la traiterait. Quand il a été chez vos collègues de Brut, on a vu comment il a évité le problème et il a fait ce qu'il fait depuis des mois, à savoir sortir le 48e numéro vert sur les discriminations. Donc, on voit bien que cette question-là des contrôles aux faciès, il y a une stratégie d'évitement du politique. Tout le monde s'engage pour les mettre en place, mais personne ne le fait. Et Emmanuel Macron est le dernier à être fuyant sur cette question-là. Donc, je suppose qu'elle a voulu remettre cette question-là sur la table.
Oui, mais pas de façon très, très habile. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est Éric Vérague.
Vous savez que moi, j'habite un quartier, comme on dit, puisque j'habite Belleville à Paris. Je ne vois jamais de contrôle. Donc déjà, moi, j'ai une interrogation sur ces histoires de contrôle aux faciès. Moi, je n'en vois jamais. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce que quand vous avez des bandes de racailles qui viennent se mettre au pied d'un immeuble, de jour comme de nuit, et que les habitants de cet immeuble ne peuvent plus rentrer sereinement chez eux parce qu'ils sont en permanence sous la surveillance de gamins qui vendent de la drogue, qui regardent le contenu des sacs quand vous rentrez des courses, qui, quand ils voient de l'alcool dans les sacs, disent « ça l'alcoolique », qui vous laissez plus sortir vos enfants seuls parce que vous avez peur qu'ils se fassent agresser. Ces gamins-là, il faut les faire partir. Et le contrôle d'identité, c'est la mesure numéro un qui permet de leur rendre la vie impossible. Je ne vais pas dans les quartiers à la Courneuve ou autre, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression que les forces de police n'y sont pas plus présentes que dans mon quartier. Et moi, je voudrais d'abord dire que à Belleville, vous avez des barres d'immeubles qui sont occupées par des immigrés chinois, des barres d'immeubles qui sont occupées par des immigrés, qui ne sont pas les mêmes barres d'immeubles généralement, des immigrés africains, maghrébins, subsahariens. Les seuls qui posent problème, c'est les subsahariens et les maghrébins. Vous n'entendez jamais un Chinois vous dire « je suis victime de contrôle aux faciès ». Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, dans les quartiers, comment se fait-il que les plaintes ne viennent que d'une communauté Et comment se fait-il que ces plaintes soient relayées autant par des gens qui ne mettent jamais les pieds dans les quartiers? Parce que je suis convaincu
mais ce sont
que
peut-être...
Claire Hédon ne vient jamais dans un quartier.
Ce sont eux qui sont les plus contrôlés aussi. C'est certain, et Emmanuel Macron l'avait reconnu, on l'a évoqué, il a reconnu l'existence de contrôle au faciès. C'est vrai qu'on entend
certains
jeunes dire qu'ils sont contrôlés plusieurs fois dans la même journée. Donc c'est vrai qu'à une époque, on a parlé...
Mais c'est souhaitable.
Mais elles sont où les caméras piétons? Ils sont où les récipicés?
Les caméras, vous ne comprenez pas?
Les caméras plusieurs fois dans la même journée, Eric, c'est pas souhaitable pour les gens qui n'ont rien fait.
Non, mais les caméras,
c'était... Le problème, c'est que squatter au pied d'un immeuble toute une journée, on fait rien, mais c'est insupportable pour les autres.
Mais vous parlez, mais les autres, voilà. ceux qui sont des gamins qui vont à l'école, qui vont au lycée, qui se font contrôler.
Ils ne sont pas contrôlés, ceux-là. Quand je vois des contrôles, c'est des contrôles de gamins qui squattent au pied d'un immeuble.
Alors voilà, écoutez, restez à Belleville.
Mais c'est pas comme ça la vie, François. Mettez les pieds dans les quartiers, ça se passe pas comme ça.
Pas tous en même temps.
Quelle agressivité, monsieur, ce matin.
Calmons-nous.
Sur tous les sujets. Alors, les caméras, on en parlait il y a 30 ans, ça a été plus de 30 ans même, ou trentaine d'années. Ça a été installé par Patrick et Isabelle Balkany à Levallois, sous le scandale absolu de toute la gauche qui a crié « Oh, dictature, oh, fin des libertés ». Bah écoutez, ils ont quand même eu une baisse énorme de la part des actes de délinquance sur le truc. Et aujourd'hui, tout le monde veut les copier 30 ans après.
Ce n'est pas les caméras de surveillance, je vous parle des caméras à piétons, des caméras que porteraient les policiers. C'est là-dessus.
Sur les caméras, en fait, c'est en cours. Il y a juste eu un gros bug dans la commande publique. Il se trouve adressé à une entreprise qui était affichée de fournir un matériel fiable. Donc, il y en a eu, c'était cassé, ça tenait pas la charge.
ça marchait sur VHS.
Voilà, fallait les rebrancher toutes les deux minutes, ça a été une catastrophe absolue, mais l'idée reste bonne.
Mais vous savez, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a quelques années, Éric Zemmour a été condamné parce qu'il avait tenu ses propos. Il avait dit on contrôle plus certaines catégories de personnes parce qu'elles sont souvent plus délinquantes. Il a été condamné. Parce que s'il avait dit dans sa phrase on contrôle plus certaines catégories de personnes qui agressent les mêmes minorités, parce que finalement, les gens qui viennent des mêmes quartiers sont victimes, ils n'auraient pas été condamnés dans ce cas-là. Vous voyez, c'est ça le drame, c'est que les premières victimes sont les gens qui habitent dans ces quartiers et qui veulent vivre tranquillement.
Alors, effectivement, et quand elle dit un homme perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlé que l'ensemble du reste de la population, c'est ce que dit Claire Hédon, la défenseure des droits.
Je pense qu'on ne peut pas dire ça comme ça. En fait, ça dépend où. Je pense que si précisément pour reprendre l'exemple du 16e ou de Neuilly, vous n'aurez pas ces statistiques-là. Non. Simplement, dans des quartiers où vous avez une population à 80 ou 90% non européenne, effectivement, vous tombez sur ces probabilités-là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose
à imaginer, à
mettre en place? Parce qu'on
sûr.
Comprend aussi que certains se sentent...
Mais Valérie, comment vous voulez contrôler autant d'Européens que de non-Européens dans un quartier où il n'y a quasiment pas d'Européens? Comment vous faites? Pratiquement, vous faites comment?
Non, mais c'est effectivement Emmanuel Macron qui reconnaît l'existence des contrôles aux faciès, mais qui n'a rien mis en place pour lutter contre. C'est un petit peu ça aussi la question.
Non, mais on peut envisager au niveau numérique une application qui, une fois qu'on a contrôlé quelqu'un, voilà, ça passe. Ça, technologiquement, c'est possible. Hein. Donc ça va être fait, mais ça va être long.
Allez,
on contrôle.
Oui, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous et on va parler de ce qui s'est passé à Poissy, de la réaction du ministre de l'Intérieur qui a aussi fait des annonces pour le moins étonnantes. On va y revenir, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi. Hier, Gérald Darmanin s'est exprimé à propos de l'agression dont ont été victimes, l'attaque même violente dont ont été victimes des policiers à Poissy. Écoutez ce qu'il disait.
Moi, je suis venu dire ici à Poissy, ce déplacement était pour dire aux policiers qu'il ne faut rien laisser passer en République. Et que s'attaquer à des policiers, c'est s'attaquer à la République. Et le ministère de l'Intérieur soutient ces policiers et ces gendarmes, des moyens matériels supplémentaires. On va réfléchir aussi dans ce coin des Yvelines que je connais bien également pour aider les élus dans leurs interventions en caméras de vidéoprotection, en effectifs, en matériel.
Voilà. Donc, s'attaquer à des policiers, c'est s'attaquer à la République. On a l'impression de découvrir cette situation à chaque fois à l'occasion d'un événement comme celui-là. Et pourtant, ça fait des années qu'il y a des agressions contre les forces de l'ordre et que pas grand-chose n'est mis en place. Je voyais la réaction juste d'un policier qui disait, Gérald Darmanin a annoncé la pénalisation des tirs de mortier qui sera considérée comme pouvant être une arme à destination. Sauf que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On nous a dit il y a quelques mois qu'on allait légiférer sur la vente de mortiers. On en est où ? Donc à chaque fois, on rajoute une couche de quelque chose qui soit existe déjà, soit n'a aucun effet et aucun impact.
Confond le mortier et le jokari, quoi, en fait, c'est ça. Quoi. Alors qu'effectivement, on n'a pas le droit. Moi, il y a un truc, alors je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais je ne comprends pas. Moi, quand j'étais petit, on m'expliquait qu'il y avait un truc qui s'appelait la sommation. C'est-à-dire qu'un policier disait « halte ou je tire » quand il se passe quelque chose. Et alors, je ne suis pas évidemment pour que les policiers tuent tout le monde, mais il y a un moment, on doit pouvoir faire usage de son arme dans un cas extrême, ce qui a été le cas ces derniers jours, il me semble.
Ouais. Enfin là, ils s'enfuient. Ils n'ont pas les moyens de répliquer. Judith Weintraub.
Oui, la politique est un art d'exécution. Vous avez raison de dire que les dispositifs législatifs, pour une grande partie d'entre eux, existent déjà. Je rappelle qu'en fait, cette agression s'inscrit dans un contexte particulier. Le maire de Poissy, Carl Olive, avait décidé de priver les parents d'enfants délinquants multirécidivistes de certaines aides sociales distribuées par la mairie. Des aides sociales qui ne concernent pas l'essentiel, hein. Je précise, c'est des accès à des loisirs, à des trucs périphériques. C'est un acte de violence politique qu'ont commis ces gamins. Et ça nous montre qu'il y a des mesures qui font peur, donc qui peuvent être efficaces. La suspension des allocations familiales ou la suspension des aides, un des premiers à en avoir parlé il y a maintenant plus de 25 ans, c'est Julien Drey, ex-député socialiste, pas franchement un admirateur de Génération Identitaire. C'est une idée qui a été très peu mise en œuvre parce que peu de politiques ont le courage de le faire, et quand ils le font, ça ne suit pas. Ouais. En général, parce qu'il y a une complaisance des caisses d'allocation familiale qui dit non, ils sont déjà dans des situations difficiles, on ne va pas rendre la situation des parents défaillants encore plus difficile. C'est une mesure qui, dans les quelques cas où elle a été appliquée, montre une certaine efficacité. Voilà l'exemple de quelque chose qu'on pourrait faire.
Oui. Éric Vérag.
Moi, je pense qu'il y a deux sujets au moins. Il y a un premier sujet qui est quand même notre stratégie globale de maintien de l'ordre, parce que multiplier les moyens, c'est une illusion. La question, c'est comment on utilise les moyens. Et aujourd'hui, de fait, je pense que la stratégie qu'avait eu à une époque Jean-Pierre Chevènement de mettre en place une police de proximité qui a été cassée par le management policier, était une stratégie intelligente. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est une présence policière intermédiaire entre le vide et l'arrivée de gens qui ressemblent à des soldats extraterrestres. Il faudrait une présence policière plus quotidienne pour renouer le lien.
Sauf que les flics ne veulent pas habiter sur place, et on les comprend, parce que quand vous êtes atteignable...
Je ne dis pas que c'est simple, mais aujourd'hui, on voit bien qu'entre la voiture qui passe et le rien, il n'y a pas de présence intermédiaire des policiers dans les zones difficiles. Et je pense que c'est un vrai sujet, mais je ne dis pas que c'est simple à faire. Oui. Et il y a un deuxième sujet qu'il faut quand même traiter, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas demander à des jeunes qui sont majoritairement dans des communautés de confession, de culture musulmane, qui s'entendent dire à longueur de journée qu'ils ont été des victimes de la colonisation, qui sont victimes d'islamophobie, etc., de la part des méchants français, on ne peut pas leur demander d'accueillir comme des libérateurs ce qui représente l'ordre républicain. Et tôt ou tard, cette injonction paradoxale qui consiste à dire « mais oui, nous sommes des méchants blancs de plus de 50 ans, et en même temps, mais nous ?» on ne pourra pas la tenir. Donc, tôt ou tard, la France devra bien avoir, et la République devra bien avoir un discours d'intégration positif vis-à-vis de ces jeunes, et elle devra bien leur dire que la France, c'est pas si mal. Il y a des écoles gratuites, des hôpitaux gratuits, en tout cas pour ceux qui les utilisent. Il y a des lieux de culture qui sont mis à disposition. C'est un état de droit. Il faudra bien qu'un jour, nous nous aimions nous-mêmes pour que les autres se mettent à nous aimer.
Oui, d'accord. Mais enfin, on ne peut pas mettre sous silence le fait qu'en France, aucune peine de moins de 2 ans de prison est appliquée. Donc, il y a un sentiment d'impunité absolue de la part de ces jeunes. C'est ce qu'ils voient. Ils doivent, de toute façon, au pire, on est arrêté, on est relâché, puisqu'on sera condamné à moins de 2 ans. Donc, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ?
François, c'est pourquoi les juges, qu'est-ce qui fait que les juges manifestent une forme d'indulgence vis-à-vis des petits délits ? Et moi, je ne suis pas un grand défenseur de la prison. Mais la question, c'est pourquoi on a aujourd'hui une magistrature qui considère qu'on n'est pas obligé de faire respecter la loi dans tous les cas.
Ouais. La réponse est à l'École nationale de la magistrature que Dupond-Moretti avait promis de dissoudre et qui va lui survivre.
François Coq.
Ouais. Bon, d'abord, ça a été dit, mais je crois que ce n'est pas inutile de le redire. Et pour le coup, le ministre de l'Intérieur est dans ce rôle quand il dit que les actes qui sont intervenus ne sont pas admissibles en République et devront être sanctionnés. Voilà, je crois que ce n'est jamais inutile de le redire et ça fait partie de la pédagogie collective. Ensuite, Valérie posait la question tout à l'heure, elle disait que ce n'est pas nouveau finalement tout ça.
Non,
ce n'est pas nouveau. Donc d'abord, il faut s'interroger sur les mesures qui ont été prises depuis. Moi, j'étais élu à Champigny-sur-Marne, j'y suis toujours enseignant, et vous vous souvenez, c'est la ville où le commissariat a été attaqué à coup de mortier il y a quelques mois. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, le même, est venu pavaner devant, faire des grandes annonces, et puis ça vient d'être dit. Depuis, quoi de neuf ? Rien. Rien, sinon des déclarations d'intention qui sont reproduites une fois de plus. Et puis, la vraie question, en réalité, qui est posée, c'est est-ce que ces faits-là sont en augmentation ? Et si c'est le cas, à quoi est-ce que cela est dû ? Moi, je rejoins pour le coup Eric sur le fait qu'il y a un grand vide qui s'est installé entre ce que souvent, dans les quartiers, certains conçoivent comme la BAC qui débarque un peu comme des cow-boys et de l'autre côté, rien. Et ben donc, il faudrait peut-être que la police joue aussi ce rôle d'interlocuteur et permette d'être du lien aussi dans ces quartiers-là.
Et puis, le
dernier aspect…
Est-ce que c'est pas trop tard ? Juste, est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que c'est pas aujourd'hui impossible ? On a des auditeurs qui nous disent qu'il y a certains quartiers où il est impossible d'aller, même pour la police. Donc, quand on voit comment ils sont accueillis à Poissy, pour les raisons peut-être que vous avez évoquées, Mathieu Alterman, mais comment on fait pour aller faire ami-ami, je mets entre guillemets, quand on veut pas de vous ?
Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je mesure la difficulté de la chose, mais l'enseignant que je suis dans ces quartiers-là ne peut pas se résoudre au fait de dire que le dialogue n'est pas possible. Je continue à penser qu'il y a des choses à reconstruire, mais vous avez raison.
Ouais.
On part de loin et beaucoup de beaucoup
Et
de
votre
mal
troisième
à...
point
et le dernier point, rapidement, c'est qu'on doit quand même s'interroger collectivement. Si effectivement ces actes se multiplient de plus en plus, est-ce que la séparation dans la société entre la police et les citoyens n'est pas de plus en plus importante ? Et est-ce qu'elle n'est pas ressentie de plus en plus violemment dans la société pour qu'elle s'exprime sous cette forme-là ? Je ne dis pas ça pour la justifier, je le dis pour qu'on cherche à voir comment en changer. L'appréhension qu'il y a des forces de sécurité, de la police notamment, par l'utilisation qui en a été faite par le pouvoir politique depuis 2 ans, et notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes, a créé une ambiance assez globale qui peut-être peser, et ça mériterait, je crois, d'être vérifié.
Sur le point de la distance, sociologiquement, c'est le contraire. Les concours de recrutement, les formations ont été beaucoup raccourcis, notamment par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, ce qui fait qu'en fait, c'est la même population qui est côté flic ou côté voyou, de plus en plus.
Oui,
moi je voulais rajouter...
Avec la même absence de référence et la même absence de cadre.
Oui, non, mais il ne faut pas non plus considérer que ces problèmes de délinquance ont lieu dans des zones géographiques bien précises. Il y a une augmentation sur tout le territoire. À Neuilly, par exemple, alors ça me fait sourire, moi j'habite Neuilly, je peux vous dire qu'il y a une explosion des cambriolages qui dure en tout et pour tout 3 minutes par cambriolage aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens hop, montent sur les balcons, ils vident ça en 3 minutes. Dans les campagnes, vous avez une augmentation de la délinquance comme on n'a jamais vu cette année dans les campagnes, dans les zones rurales. Je veux dire, c'est partout. Le problème est partout. Et c'est, je le répète, il faut une réponse judiciaire. Si vous ne risquez rien, ou alors du sursis, ou alors chaque peine de moins de 2 ans qui n'est pas appliquée, vous continuez.
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Judith.
Il faut
Éric Verhaeghe.
Oui, il faut peut-être dire que là, on est sur un problème différent de la délinquance. C'est-à-dire que la délinquance peut généraliser, oui. J'en suis d'accord. Là, on est sur la question du fait que les policiers sont personnellement visés par des individus, des groupes, des bandes, qui cherchent d'une façon ou d'une autre à rentrer dans un rapport de force avec la police. Et on comprend pourquoi. L'enjeu, c'est la maîtrise de l'ordre sur un territoire. Aujourd'hui, on a des groupes constitués. Et redisons-le, ce n'est pas l'immigration chinoise qui produit ça majoritairement, des groupes constitués et qui ont une vision différente de l'ordre qui doit régner sur le territoire que la nôtre. Et ils s'en prennent aux policiers pour instaurer un rapport de force. Et donc, on est quand même là face à un problème politique général qui est notre volonté d'englober tout le monde dans la République et la meilleure façon d'y arriver. Et je crois qu'on est d'accord sur nos désaccords, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique gentille, bienveillante, que nous pratiquons depuis une trentaine d'années et qui, d'année en année, de mon point de vue, produit des résultats désastreux, parce que ce que nous pensons être de la gentillesse est interprété par les autres comme de la faiblesse. Et de mon point de vue, il y a une logique de fermeté à avoir sur ce que nous sommes et de confiance dans nos valeurs qui aujourd'hui, malheureusement, est ruinée jour après jour par une grande partie, notamment de la gauche, qui explique que l'Occident, c'est méchant. Et je vois mal comment on pourra intégrer des gens en ne nous aimant pas nous-mêmes. Je crois que le problème, il est là, il n'est pas celui de la délinquance.
Oui, je ne sais pas si c'est... C'est un peu mea culpa, mea culpa, ce que vous êtes en train de dire, non ?
Non, mais c'est vrai qu'on a une part de responsabilité dans le désamour de la France, évidemment. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des professeurs. Je ne suis pas en train d'agresser François Coq, mais je pense qu'il a eu, il a aussi parfois des collègues qui véhiculent l'idée qu'effectivement, ces jeunes issus de l'immigration, donc de deuxième, troisième, quatrième génération, que la France est en situation de débiteuse vis-à-vis d'eux, qu'elle leur doit quelque chose qu'elle ne leur a pas donné. Ça se fait aussi à l'école. Et oui, c'est notre faute d'avoir laissé prospérer, voire encourager, à l'époque du pédagogisme triomphant, ce genre d'éducation.
Oui, mais enfin, pour autant, il faudra en finir avec l'égalitarisme, qui est 10 minutes pour Churchill, 10 minutes pour Hitler, chacun est victime de l'autre. C'est pas possible. Et revenir vraiment sur l'aspect judiciaire, il n'est pas normal que tous les jours, devant le palais de justice, devant la place du Châtelet à Paris, sur les ponts, vous avez des gens qui viennent des pays de l'Est, sur des mafias qui volent les portefeuilles des touristes, et le lendemain, on les retrouve. Un jour, ça va mal finir, il y en a un qui va en prendre un, il va le balancer à la Seine. Enfin, c'est pas normal qu'on a l'impression qu'il y a une impunité totale, et je pense aux policiers qui en ont marre peut-être de contrôler des gens.
Là, c'est encore autre chose, là, sur les quartiers. Johanna nous dit, oui, il y a un éloignement entre la police et les jeunes, la situation s'est beaucoup dégradée par l'impunité de leurs actes, et ça fait que les choses continuent de se dégrader, c'est uniquement la volonté ferme du politique qui pourrait faire changer.
Éloignement entre les policiers et les jeunes, je suis désolé, le policier ne doit pas être proche. Moi, je n'ai pas un sentiment de frustration parce que les policiers s'éloignent de moi, je m'en fous.
Ce n'est pas le même rapport non plus. Et Guy nous dit, la répression des gilets jaunes et des quartiers, ça n'a rien à voir. Les racailles et la police avaient déjà des problèmes avant par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On se retrouve dans un tout petit instant, on va poursuivre sur ce sujet. Un auditeur nous fait remarquer également que sans assimilation culturelle, point de liberté, de démocratie, de République française. L'économie est autre chose comme la pauvreté, voire la misère sociale. L'assimilation culturelle, c'est peut-être l'un des pans qui ont été oubliés par la loi séparatisme. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va évoquer la loi séparatisme. Cette loi, à quoi sert-elle ce matin ? Philippe Bas, le sénateur, dit que tout est déjà dans la loi de 1905. Les députés se prononcent aujourd'hui en première lecture sur ce projet de loi. La majorité devrait largement se ranger, mais ce projet et cette loi est jugée trop faible ou hors sujet par les oppositions. C'est Emmanuel Macron, vous en souvenez, qui a voulu ce projet de loi qui conforte le respect des principes de la République. Ça revient évidemment sur ce qu'il avait déclaré au Mureau en octobre 2020. C'est présenté comme un remède contre l'OPA islamiste. Pourtant, le mot islamisme n'y est pas prononcé. 70 articles de loi, 80 heures de débat en séance. On dit que c'est une loi fourre-tout, Judith, vous l'avez étudié de près, cette loi ?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai du mal à voir ce qu'elle apporte de nouveau. Oui. Il y a l'histoire de la charte de la laïcité que devront signer toutes les associations qui entendent toucher des subsides publics. Moi, quand j'ai vu surgir cette idée, je me suis dit, tout le monde acceptera de la signer. Quand même, les islamistes sont pas assez bêtes pour se coller une étiquette sur le front en disant « je suis islamiste, je suis de ce là ». Bah si, il s'est quand même trouvé 3 associations, 2 Turcs et une tablique pour refuser de la signer. Bon, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle est très en deçà du discours des muraux, parce que l'islamisme n'y est pas traité. J'entendais l'autre jour David Bislard, le maire de Cannes, regretter que que la France soit incapable de réprimer les abus et du coup interdit l'usage ou restreint l'usage. Ça me semble être l'exacte illustration de cette loi, c'est-à-dire que au lieu de s'attaquer à ce qui pose problème, elle fait une espèce de fourre-tout où toutes les religions, d'ailleurs, sont montées au créneau peu ou prou, que ce soit pour la restriction drastique de l'instruction à domicile ou pour les obligations de déclaration. On est incapable de réprimer les infractions, donc on emmerde tout le monde.
Oui, j'aurais 3 points. Cette loi, elle existe parce que, d'après les derniers chiffres, on s'est rendu compte que chez de nombreux jeunes musulmans, les lois du Coran passent devant les lois de la République. Ce sont les chiffres qui le montrent. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle ne va pas assez loin. Ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième point, c'est que je pense que le seul intérêt de l'existence de cette loi aujourd'hui, c'est pour permettre au gouvernement de montrer du doigt ceux qui vont voter contre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le débat Le Pen-Darmanin la semaine dernière. C'est une stratégie de communication pour dire « Regardez, vous voulez plus de fermeté, plus de laïcité, mais au final, vous votez contre. » C'est encore un moyen de stigmatiser l'opposition. C'est tout.
Oui. François Coq.
Oui, bon, cette loi, sincèrement, il y a beaucoup de points qui sont inutiles, qui sont inapplicables, et globalement, on pourrait considérer qu'elle manque de sérieux et qu'elle manque d'ambition, et on ne voit pas bien en quoi elle va résoudre le problème qu'elle prétend traiter. Alors, bien sûr, tout n'est pas à jeter. Moi, je vois plutôt d'un bon œil le fait que les associations cultuelles basculent de la loi d'association de 1901 à la loi d'association de 1905. Mais au final, ça change pas radicalement les choses parce que on nous dit que ces associations cultuelles vont devoir faire une déclaration administrative de leur source de financement. Très bien, mais ça ne suffit pas pour contrôler la réalité de la provenance des fonds. Donc, on reste beaucoup en surface. Il y a des points qui sont quand même problématiques dans ce texte, notamment la création du délit de haine en ligne qui reprend beaucoup de points de la loi Avia avec une comparution immédiate derrière. Et ça fragilise largement la liberté de la presse, quand bien même j'ai entendu le gouvernement dire que ça ne s'appliquerait pas aux journalistes. Enfin, comment on peut faire une loi qui s'applique à certains et pas à d'autres? Ça n'a pas de sens.
Non, les journalistes... Les journalistes rapportent un fait, ils n'insultent pas les autres sur Twitter. Enfin...
D'accord.
Ah oui.
Et puis, le dernier point, c'est que, contrairement à ce que j'ai entendu, alors j'ai bien vu que les différents cultes sont montés au créneau, mais ils ont eu des contreparties dans cette loi, et notamment, par exemple, c'est l'acquisition des immeubles de rapport qui va servir à les financer de manière croisée entre les associations cultuelles et l'enseignement privé. Donc, ils ont eu aussi des dédommagements. Voilà. Je trouve que ce texte ne sert finalement pas à grand-chose, et on aurait mieux fait de s'en tenir à la loi de 1905, à toute la loi de 1905, à partout la loi de 1905.
Oui.
Enfin, je voudrais juste rajouter une chose.
On
a quelqu'un qui habite Belleville, là, quartier que je connais très bien. Il a fallu 20 ans pour expulser l'imam de la mosquée à Couronne qui tenait des prêches homophobes, antisémites et racistes. Si cette loi permet d'accélérer les choses, de faire en sorte qu'on n'ait plus le droit de vendre le protocole des sages de Sion, rue Jean-Pierre Timbaud, ce qui est le cas, okay. Là, bah, écoutez, je vois que oui, c'est positif là-dessus. Il ne faut pas tout jeter.
Non, mais enfin, c'est marginal par rapport à l'ampleur de la tâche. Pardon, Éric Vérag.
Je fais juste une remarque. Jean-Pierre Timbaud, c'est Ménilmontant.
Oui, pardon.
Ce sont deux islams différents, d'ailleurs. Non, mais sur cette loi, je crois que tout le monde a vu qu'on était parti sur les chapeaux de roue avec le fameux discours des muraux de début octobre, 1er ou 2 octobre, je crois, où Macron avait pris ses habits de guerrier et de beau sabreur pour nous expliquer qu'il allait livrer un combat. Et face à la bronca de la Ligue islamique mondiale, il a fait marche arrière prudemment parce que nous avons besoin de l'argent de l'Arabie saoudite, du Qatar, on peut les refaire en boucle. Ouais. Aujourd'hui, la question qui se pose derrière cette loi qui est faite de mesurettes, hein, qui est de la tactique politicienne.
Oui, mais
où,
qui...
En effet, je suis d'accord avec François, où on a remis de la loi Avia qu'on n'avait pas pu faire passer en piquant un bout de la future directive, enfin, du futur règlement européen sur le sujet. Donc, on s'est servi de cette loi en réalité pour embêter ceux qu'on prétendait servir. Bref, on voit bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les marges politiques nécessaires en Europe pour mener une vraie stratégie d'endiguement de l'islamisme, parce que nous sommes trop dépendants de l'argent des gens qui financent l'islamisme. Et que ça, c'est de mon point de vue un sujet de fond, au-delà de ces problèmes de tactique politique. Je pense que cette loi, elle dépasse très largement, les problèmes de cette loi dépassent les calculs politiciens. Elle montre juste qu'aujourd'hui, l'Occident ne se donne, en tout cas l'Europe, ne se donne pas les moyens d'avoir un vrai rapport de force avec les États du Golfe, ce qui pose la question de à quoi servent les États du Golfe. Moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi il y en avait. Mais dès lors qu'on en a, la question, c'est est-ce que nous sommes obligés d'accepter qu'ils financent, qu'ils sapent nos bases en échange des bases œuvres qu'on leur confie, notamment de mener des stratégies terroristes un peu partout qui prétendent nous aider au début et qui se retournent tôt ou tard contre nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous achetons la corde qui servira à nous pendre et qui sert déjà à nous pendre. Et le vrai problème, de mon point de vue, il est là.
Oui, mais cette loi, visiblement, mécontente tout le monde. Au Parlement, visiblement, certains vont s'abstenir, d'autres vont voter contre. Enfin, personne ne va soutenir cette loi. Donc, politiquement, ce n'est pas une opération très réussie non plus.
Elle va passer. Hein.
Oui, elle va passer parce qu'ils sont majoritaires, parce que La République En Marche va soutenir le gouvernement. Mais j'ai plus le détail, mais en gros, je crois que le FN va s'abstenir.
C'est ça qui est intéressant.
Ouais.
Ça va être le que RN, vont faire pardon. Le PS et le RN. Tout est là, justement. Comment vont-ils pouvoir se justifier auprès de leur électeur potentiel le fait d'avoir refusé cette loi ?
Ils vont s'abstenir. C'est ce qu'a dit Sébastien Chenu, Marine Le Pen a fustigé une reculade politique et les députés d'extrême droite devraient a priori s'abstenir. Parce qu'elle n'est pas suffisante.
Oui, mais enfin, que vous voulez vous abstenir si vous la trouvez pas suffisante ou trop forte, le résultat est le même. Vous vous abstenez et vous avez un discours à tenir auprès de vos électeurs après en disant ouais. « Bah voilà, vous ne l'avez pas fait ». Donc, c'est facile de dire, c'est uniquement la loi que je veux faire passer, mais pas l'autre. Si elle est pas assez, si elle va pas assez loin, je ne vote pas pour. Bon, c'est un petit peu moyen, je trouve. Ouais.
Judith,
on est quand même autorisé François à penser Coq. Que dans l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, les coups politiciens comme ça de la part du président de la République, c'est quand même c'est un côté un petit peu pathétique et triste quand même. Il y aurait quand même beaucoup mieux à faire. On voit qu'on est confronté à un vrai problème. Eric a raison de dire qu'il y a un mouvement idéologique qui part des pays du Golfe, qui est dans une dimension quasi impérialiste et qui s'étend depuis une trentaine d'années, que nos sociétés totalement atomisées et réduites à l'individualisme cherchent des identités de seconde zone pour se recréer parce qu'on a délité la communauté des citoyens. Et on voit bien que la conjonction des deux est totalement explosive dans notre pays. Et à côté de ça, on a une loi qui est un coup politique. Bon, ben, je crois que c'est pas à la hauteur des enjeux. Et Emmanuel Macron ferait mieux d'arrêter de penser à 2022 en se rasant.
Oui. Vous pensez oui, que
je dis en trop. Tous, j'ai presque envie de la défendre cette loi, en disant que néanmoins, elle va dans le bon sens. Qu'il y a quand même ce qu'on a appelé l'amendement Paty, du nom de Samuel Paty, professeur égorgé par un islamiste, qui permettra de protéger davantage les dépositaires de missions de service public que sont les enseignants. Mais encore une fois, tout est tard d'exécution. Si ce dispositif législatif renforcé peut inciter les magistrats à être plus sévères et à appliquer davantage la loi, tant mieux.
Mais vous pensez que ça aura... Après, c'est une question d'interprétation, encore une fois. La loi... Il y a déjà une loi qui...
Ouais. La loi précise des outils qui, pour l'essentiel, existaient déjà.
Oui, c'est ça. Mais qui n'étaient pas...
Il reste très flou, parce que cet article sur la mise en danger de la vie d'autrui, ce que disent les magistrats aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à caractériser l'intention de nuire telle qu'elle est présentée dans la loi. Donc, cette loi, elle est quand même assez mal ficelée. Je n'y pas un cas des points qui essaient d'être des avancées, mais on est quand même très loin de l'objectif tel qu'il était fixé.
C'est un piège.
On n'est pas obligé de croire les magistrats sur parole.
Cette loi, c'est un piège. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1988 sur le référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Rappelez-vous ce qui s'est passé quelques années après sur le PACS. Dans les deux cas, le RPR s'est abstenu dans un cas à voter contre pour l'autre. Il a fallu des années pour qu'ils se justifient auprès de leurs électeurs leur décision. Il faut faire très attention aux gens qui vont s'abstenir, qui vont devoir le payer devant leurs électeurs dans quelques mois.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.